Alors, il est extrêmement difficile d'aborder la question en termes d'espoir quand on est historienne, puisqu'il faut penser à un devenir dont on n'a pas véritablement la maîtrise et on n'est pas complètement adapté à penser le devenir lorsque notre profession consiste à réfléchir sur le passé. Première difficulté. Alors, on peut considérer ça comme un caprice, on peut considérer ça comme employer les qualificatifs qui vous convient, mais j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à accepter, c'est la raison pour laquelle M. Caillé est un petit peu agacé, à accepter cette conférence, parce que je lui ai dit non, je n'ai rien à dire sur l'avenir parce que je suis spécialiste du passé. Simple. Mais je vais tenter malgré tout de réfléchir sur la question dans la mesure où une de mes spécialités, c'est l'histoire politique du XIXe siècle et l'histoire des utopies. Vous avez là un volume, c'est la deuxième édition du Dictionnaire des utopies que je dirige. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il est possible d'envisager le devenir d'une humanité qui éprouve globalement quelques difficultés à l'heure actuelle en termes d'espoir? Y a-t-il un espoir compte tenu, disons, d'une réalité passée légèrement conflictuelle, mais il semble que la conflictualité est encore plus présente qu'elle ne le fut dans le passé. Donc, difficulté d'autant plus grande pour essayer malgré tout de garder un optimisme que par ailleurs je conserve. Alors, avant de penser l'espoir, il serait nécessaire, me semble-t-il, de réfléchir sur la crise actuelle du jeu démocratique. Il me semble que le jeu démocratique ne fonctionne plus comme il le devrait, puisque nous vivons une actualité particulièrement éloquente, dont la visibilité explose, puisque la pression dite de la rue l'emporte en quelque sorte sur la représentation politique. Il a fallu une série de manifestations. Je n'ai pas écouté les dernières informations là, je ne sais pas quelles sont les décisions gouvernementales, mais il semble que la représentation politique ne fonctionne pas comme elle le devrait, puisqu'il est nécessaire de s'exprimer ailleurs, dans un espace public, mais hors du cadre ordinaire de la représentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons le jeu démocratique est si peu actif? Et pourquoi, aujourd'hui, assistons-nous à une crise aussi éloquente, aussi visible, et qui semble véritablement poser plus de problèmes qu'on ne peut en résoudre? Alors, je poserai la question suivante. Qu'est-ce qui ressurgit du passé pour que ce passé qui ne passe pas advienne de manière détournée et qui en fait déstabilise quelque peu le débat ordinaire ou la représentation ordinaire démocratique? Avant d'aborder l'actualité présente, immédiate, il me semble qu'il y a un retour nécessaire sur une actualité qui a véritablement été mal perçue, mal comprise, ce que d'aucuns appellent donc le retour du refoulé du politique. On a assisté ces dernières années à un retour du religieux, particulièrement visible, particulièrement dramatique, et ce retour du religieux s'est accompagné de violences, particulièrement, là encore, spectaculaire, si on fait allusion notamment aux attentats derniers, et notamment avec les attentats qui ont marqué considérablement les États-Unis. Certains ont même parlé de dérive fasciste, puisqu'on comparait cette expression à cette violence gratuite qui caractérise en apparence justement le fascisme. On ajoute à cela le constat aussi particulièrement dramatique du génocide, des génocides, celui du Rwanda dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qui se passe? Aurait-on abandonné, aurait-on oublié les Lumières, le siècle des Lumières, au point qu'à l'heure actuelle, les spécialistes sont en train de présenter une exposition à la Bibliothèque nationale sur les Lumières pour raviver la raison critique, comme si ces Lumières s'étaient éteintes. Réfléchissons donc, que s'est-il passé? Pourquoi il y a ces violences? Pourquoi on assiste à une sorte d'aporie démocratique? Pourquoi cette crise? Pourquoi ce contournement de l'expression classique d'une civilisation qui avance par le débat? Alors, si les Lumières se sont éteintes, avant d'aborder cette extinction des Lumières, et sans jeu de mots, essayons de réfléchir sur qu'est-ce que les Lumières. C'est-à-dire que quelles Lumières se sont éteintes? Les Lumières notamment des XVIIe et des XVIIIe siècles. Je parle des Lumières du XVIIe parce qu'en général on réduit un petit peu les Lumières au XVIIIe siècle, alors que les Lumières commencent en particulier avec le XVIIe siècle anglais, puisque celui-ci a montré, si vous voulez, ses capacités de réflexion critique au point qu'ils ont anticipé, comme vous le savez, sur les révolutions, le premier pays à avoir déstabilisé et aboli l'autorité arbitraire. Les Lumières sont caractérisées généralement et classiquement par deux valeurs fondamentales. Les Lumières, c'est la critique de l'autorité arbitraire, du pouvoir arbitraire et le règne de la raison. L'arbitraire étant multiple. Donc cette critique du pouvoir arbitraire, c'est cette critique donc de l'autorité qui sévit sans consultation, de quelque ordre que ce soit, et le règne de la raison, c'est-à-dire l'expression d'une raison critique qui tente d'expliciter justement cette autorité en lui déniant les capacités, disons, de régner sans consultation, sans débat. Raison pour laquelle une question a été posée à Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle, qu'est-ce que les Lumières? Et Kant a répondu en un tout petit opuscule que je vous recommande particulièrement sur ces Lumières, et il a commencé à définir ce que pouvait être cette raison à l'œuvre en expliquant en d'autres termes que pour exercer sa raison, l'homme au sens général du terme, au sens générique du terme, eh bien, devait l'exercer, cette raison, devant un public qui lit. C'est-à-dire que pour que la raison puisse être entendue, il fallait véritablement un public identiquement libre. C'est-à-dire un public qui soit susceptible d'entendre ce que l'interlocuteur disait, et en même temps comprendre, c'est-à-dire qu'il était nécessaire que le dialogue ait lieu. Raison pour laquelle il a tenté de réfléchir sur qu'est-ce que cette raison à l'œuvre, à qui appartient-elle? Et bien entendu, la réponse est, elle appartient à l'homme libre. Mais ça n'est pas une liberté simple. Libre, dit-il, de toute tutelle dont il est lui-même responsable. En d'autres termes, la liberté définie par les Lumières, c'est une liberté complète, totale, existante et en devenir. C'est-à-dire que pour pouvoir parler, pour pouvoir agir, il fallait agir et parler en toute connaissance de cause. En d'autres termes, la liberté sans savoir, c'est une incompatibilité. On ne peut être libre si on n'a pas la connaissance pour pouvoir appréhender le monde dans lequel nous sommes. Et bien entendu, absence de tutelle signifie absence de guide. Absence non pas de maître à penser au sens noble du terme, mais absence précisément de dogme de celui qui parle à votre place ou qui vous conduit à agir tel qu'il croit nécessaire que vous devriez agir. C'est-à-dire le pouvoir qui s'exerce sur la mentalité de l'un, sur la façon dont l'individu se comporte, qui comptera en quelque sorte les individus à agir quelquefois sans comprendre véritablement ce qu'ils font. Raison pour laquelle Foucault, Michel Foucault, a été très intéressé par ce texte, lui-même qui a défini la liberté, c'est-à-dire toujours en devenir, et cette liberté contraignait les individus à se poser constamment la question « Comment se fait-il que j'agisse alors que je n'ai pas véritablement choisi cette action ?» Ou « Comment se fait-il que je pense ce que je ne pense pas ?» Ou « Comment se fait-il que j'accepte cette tutelle ou cette autorité que je considère comme illégitime ?» Vous imaginez l'extrême questionnement en continu et toujours au présent que nécessite la liberté. Cette liberté, donc, suppose une liberté réelle de toute tutelle. Comprenez bien qu'à l'époque où Kant a envisagé la chose, il y avait une minorité d'hommes libres, d'hommes et de femmes libres. Alors Kant ajoute que les femmes ont une propension à choisir la sécurité, du même coup, en choisissant la sécurité, on choisit la tutelle. Et il avait tendance à imaginer, bien entendu, le partage des rôles, comme on l'imaginait assez fréquemment à cette époque-là, c'est-à-dire que les femmes s'épanouissaient davantage dans le mariage, épanouissement est un terme un peu inadapté, mais choisissaient donc cette sécurité plutôt que l'accès au savoir et donc à la liberté. Envers et contre ce point de vue, on sait que les Lumières ont été caractérisées par un nombre non négligeable de femmes qui ont accédé au savoir et donc à la liberté. Ce qui signifie de manière extrêmement concrète que liberté et savoir sont étroitement liés. Quand on sait que les Lumières ont été pensées pour exercer et faire en sorte que l'exercice de la raison critique puisse véritablement s'étendre à un nombreux public, eh bien, il faut comprendre que peu à peu, cette liberté, cette raison, a été maîtrisée, certes, peut-être cette liberté s'est-elle étendue, mais à un public relativement réduit, c'est-à-dire à ce que on pouvait appeler sous l'Ancien Régime les privilégiés de la liberté. Pour être libre, pour savoir, il faut du temps, et du même coup, il faut un minimum de statut social, si je puis dire, pour accéder à cette liberté. Lorsque la Révolution française, mais la Révolution pas au sens français du terme, au sens achèvement du processus, lorsque la Révolution française a permis l'extension de cette liberté, a permis réellement que la promesse de liberté puisse se répandre dans tous les esprits, donc à autoriser tout individu à se croire soit libre réellement, soit potentiellement libre, vous imaginez le bouleversement radical que cela a pu créer. Imaginons, à la fin du XVIIIe siècle, les Lumières se répandre dans la totalité de la population, des populations, quelle qu'elle soit, puisque le processus révolutionnaire va très loin. En France, on a pensé, enfin les autorités révolutionnaires, ont pensé qu'on ne pouvait pas arrêter la révolution à l'homme blanc, puisque la révolution, comme vous le savez, a permis la libération de l'esclavage. Certes, esclavage rétabli par Napoléon, mais la révolution a accordé cette possibilité. Et la révolution est allée un petit peu loin en accordant en 1792 la loi sur le divorce où les deux partenaires étaient pratiquement à égalité. Rappelez-vous tout simplement, si vous l'avez oublié, que cette loi sur le divorce de 92 va trouver son équivalent seulement en 1974, c'est-à-dire le divorce par consentement mutuel, c'est à peu près l'équivalent de cette loi de 1792. Donc, cette parenthèse de 1792 à 1974, cette parenthèse est longue, immense. Que s'est-il passé pour que cette extension de la liberté, en collaboration étroite avec l'idée d'égalité, comment se fait-il qu'elle ait été confisquée par un nombre relativement réduit de privilégiés de la liberté? Et c'est là qu'il faut bien comprendre, à ce moment-là, quel sens on peut donner au mot. Raison et liberté sont restés, bien entendu, les maîtres mots du XIXe siècle, les maîtres mots du gouvernement représentatif, d'une part, de la démocratie représentative, d'autre part. Et ces maîtres mots, il faut comprendre comment ils ont été mis en œuvre. Alors, attardons-nous pour comprendre pour quelles raisons cette liberté non accordée ou non pratiquée ou non mise en place, cette liberté ressurgit à l'heure actuelle de manière déviée, de manière contraire au débat démocratique, puisque cette démocratie ou cette représentation démocratique a pour but, hein, si on prend ce que peut signifier la démocratie moderne, au sens classique du terme, si on prend par exemple les travaux de Claude Lefort, la démocratie c'est le vide du pouvoir. La démocratie se comble tout simplement par le débat démocratique. Le débat démocratique, eh bien, répond aux attentes de Kant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des interlocuteurs également libres. Il faut que, même s'ils sont en désaccord, même s'il y a opposition, il faut qu'ils puissent débattre. Il faut qu'ils puissent faire entendre raison à l'autre. Ils sont également libres et ils s'entendent. Il se trouve que ce débat, justement, ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Alors, si ce système-là qui a été mis en place aboutit à l'impasse présente, c'est donc que ce vide du pouvoir et que cette démocratie, jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la représentation démocratique, n'a pas fonctionné. Certes, elle n'a pas fonctionné, et pourquoi? C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il est bon de savoir quel sens a été donné au mot. Tout d'abord, la raison. Puisque les Lumières, c'est l'exercice de sa raison. Eh bien, la raison, petit à petit, au fur et à mesure de l'apprentissage de la démocratie, au fur et à mesure de l'expansion des droits pour tous et pour toutes, eh bien, cette raison, petit à petit, on s'est aperçu qu'elle n'appartenait pas à tous. Qu'il y avait des individus qui avaient ou qui disposaient naturellement d'une raison supérieure. Qui avaient, compte tenu d'une éducation, compte tenu d'un statut social, compte tenu d'une naissance particulière, même si le privilège de naissance était aboli, un certain nombre d'individus s'estimaient ou on pensait que ces individus avaient une raison supérieure. Alors c'est ce que les libéraux premiers du terme, ceux qu'ont inventé justement le gouvernement représentatif, ont bien mis en place et bien dit de manière explicite, parce qu'eux étaient tout à fait critiques à l'égard de l'extension du suffrage universel où la raison n'appartenait pas de leur point de vue à tous. Alors, Guizot, en premier lieu, a commencé, François Guizot, grand homme, grande intelligence, a commencé par expliquer qu'il y avait une raison supérieure pour expliquer qu'on ne pouvait pas accorder la citoyenneté à tout le monde. La souveraineté, dit-il, ou la démocratie, disait-il, est un cri de guerre. Eh bien, tout simplement, il a expliqué qu'il, le père, naturellement, avait une raison supérieure. Le père ayant une raison supérieure, disait-il, dans la famille, le modèle de la famille est exemplaire pour savoir qu'on n'a pas besoin de loi pour qu'il y ait une hiérarchie naturelle. comme on n'a pas de loi pour, pas besoin de loi pour qu'il y ait une hiérarchie naturelle, ça veut dire que naturellement, des individus sont inférieurs par rapport à d'autres individus. Et on constate, effectivement, pendant cet apprentissage de la démocratie représentative, que longtemps, hein, Michelet y compris, même avec son, sa brillance, son intelligence, on a considéré le peuple, entité mal identifiée, mal, dont les contours étaient mal cernés, le peuple un petit peu comme une quantité un tout petit peu immature, un peuple qui était inachevé, parce qu'effectivement, le peuple n'avait pas le même accès au savoir que les aristocrates et les bourgeois. Le peuple, pour l'essentiel, à juste titre, manquait de temps pour accéder au savoir. Donc, comme le peuple manquait de temps pour accéder au savoir, il fallait expliquer cette hiérarchie. Il fallait lui donner du temps pour qu'il accède au savoir. Mais attention, si il accédait au même savoir que l'aristocrate ou le bourgeois, eh bien, on aboutirait justement à une identique liberté et à une identique égalité. Bref, la hiérarchie sociale aurait été profondément déstabilisée. Alors, on a fait en sorte, c'est assez complexe, hein, c'est pas à la fois machiavélique ni pensé préalablement avec tout ce que ça implique, c'est ce qui advient, ce qui se fait, ce qui est. Eh bien, le peuple, on lui a donné en particulier l'école primaire, très tôt. L'école primaire, mais une école primaire qui permet au peuple de pouvoir déléguer une raison supérieure. L'apprentissage du gouvernement représentatif, c'est en quelque sorte l'apprentissage de la délégation de pouvoir. Il y a des individus qui ne peuvent pas exercer justement le statut de représentant, ce qui est parfaitement logique. Mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que cette démocratie représentative, elle est contemporaine de la construction des identités sociales. De la construction des identités sociales, et puis, puisque les promesses de la Révolution étaient bien entendues, eh bien, on savait très bien que ces promesses allaient donner des insurrections et des révolutions, et elles ont donné des insurrections et des révolutions. C'est pourquoi, justement, il fallait cantonner les individus dans des identités dans lesquelles ils puissent se sentir à l'aise et ne pas outrepasser leur catégorie sociale. En d'autres termes, un homme du peuple ou une femme du peuple prétendre à une représentation au-delà de ce qui était permis, eh bien, c'était un tout petit peu subversif. Il était nécessaire, la démocratie représentative est devenue en quelque sorte l'allié de, enfin, le parallèle d'une construction identitaire où les individus devaient se comporter selon l'identité qui leur était assignée. Et c'est ainsi que on a identifié les femmes au féminin et on les a bien mises à l'écart de l'espace public. Mais je ne reviens pas sur quelque chose que j'avais dit il y a très très longtemps pour essayer de comprendre quels sont ces refoulés du politique et qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir des Lumières, liberté et raison, où tout est pensé possiblement à venir, le devenir pour chaque individu, c'était liberté et raison. Donc, on a procédé par étapes. On a fait en sorte que, pour que la hiérarchie perdure, on a fait en sorte que chacun puisse, à terme, accéder à cela, mais lentement. Progressivement. Et la démocratie représentative, elle est contemporaine de la philosophie du progrès. La philosophie du progrès, je dirais, qui vient à terme, maintenant plus grand monde accède à la philosophie du progrès. Tout le monde a quelques doutes sur le bien fondé du progrès. Eh bien, cette philosophie du progrès a fonctionné admirablement bien, puisque pratiquement tous les contemporains de l'apprentissage de la démocratie représentative étaient favorables au progrès, et vous savez très bien que cette expression progressiste appartient au vocabulaire même le plus à gauche. Donc, être favorable au progrès supposait imaginer une fin de l'histoire possible, une finalité, à un moment où la totalité des individus disposerait et de la raison, et des lumières, et donc de la liberté. Or, cette philosophie du progrès, cette raison qui devait triompher, a été aussi l'instrument, d'un certain point de vue, de quelque chose qui apparaît paradoxal. Alors, déjà, on a mis les femmes à l'écart de l'espace public. Longtemps, les femmes n'ont pas disposé de cette même liberté. Mais en même temps, on comprend mieux à ce moment-là les raisons pour lesquelles, au nom de cette philosophie du progrès, il a été nécessaire d'étendre la civilisation occidentale porteuse des Lumières, d'étendre cette civilisation à d'autres civilisations. Et cette extension à d'autres civilisations a été marquée par cette certitude que la liberté occidentale était quand même supérieure aux autres civilisations. En d'autres termes, et si je veux être extrêmement concrète, la colonisation s'est faite au nom d'une supériorité, non pas de la civilisation blanche, au nom d'une supériorité de la raison critique, au nom d'une supériorité des Lumières, au nom d'une supériorité d'une liberté que l'on devait partager avec d'autres peuples. Et du même coup, comme on avait construit le peuple en France et ailleurs comme immature, incomplet, qui devait accéder à la liberté et à la raison critique un peu plus tard, eh bien on a imaginé la même chose pour les civilisations conquises, pour tous les pays qui devaient justement bénéficier des Lumières, avec ce décalage, avec une... Je parle des plus évolués, je parle de ceux qui précisément avaient un point de vue particulièrement éclairé sur la nécessité de l'extension des Lumières. Et du même coup, on a constitué des peuples à part, c'est-à-dire avec des droits moindres. Et du même coup, ces droits moindres, ces peuples à part, eh bien, forment des catégories. On a construit la catégorie du colonisé. Non seulement avec des droits moindres, mais avec... Je ne prends pas les caricatures, parce que ça serait trop facile, mais avec un décalage, justement, sur la finalité historique. À terme, incontestablement, ces civilisations verraient le jour, au sens plein du terme, c'est-à-dire verraient les Lumières. Mais tout ceci crée précisément des décalages. Alors, je me suis souvenu d'un propos, enfin, un texte, de Hegel qui disait « Il n'y a de vérité qu'abstraite ». Et comprenez bien ce que ça signifie, et cette vérité abstraite, chère à Hegel, est le propre même de l'apprentissage de la démocratie représentative. Comprenez bien. Révolution, au sens lumière du terme. Promesse révolutionnaire. Chaque individu qui n'est pas libre va, bien sûr, s'emparer de cette bastille liberté-égalité. Ernst Bloch disait, à chaque bastille à prendre, il est nécessaire justement de mobiliser les grands principes révolutionnaires. Et c'est vrai. Les femmes, y compris, ont cherché justement liberté-égalité avec ces principes. L'abstraction, l'universalité abstraite est une condition sine qua non de la liberté, parce qu'elle est en devenir. Mais pour les trois quarts de la planète, liberté, égalité, ce sont des mots abstraits. Et pourtant, c'est une vérité. Mais la vérité devient concrète, nous dit Hegel, à partir du moment où il y a jonction entre universel et particulier. C'est-à-dire que On ne devient libre que lorsqu'on l'est réellement. Sauf que cette liberté concrète, abstraite d'abord, concrète ensuite, eh bien on s'aperçoit qu'elle ne concerne qu'une toute petite minorité. Si bien que, envers et contre cette finalité, cette philosophie du progrès progressiste, si je puis dire, linéaire, il y a toujours eu des résistances, il y a toujours eu des individus qui veulent, ici et maintenant, liberté et égalité. Et du même coup, en se souvenant, voilà pourquoi j'avais proposé ça à M. Caillé, en se souvenant de ce qui a été écarté, oublié dans l'histoire, ces paroles, comme disait l'une d'entre elles, souverainement révoltantes il y a bien longtemps, qu'on n'a pas prises en compte parce qu'elles n'étaient pas véritablement représentatives du temps, si on se souvenait de la portée politique et critique de ces paroles, alors peut-être serions-nous en capacité de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que malgré ces étapes, malgré cette extension relativement réduite du savoir à tous et à toutes, malgré justement l'extrême réduction du savoir total, si je puis dire, à une élite, il n'empêche que le savoir critique s'est largement répandu, très largement répandu, bien au-delà des frontières, bien au-delà des pays privilégiés, grâce précisément à l'apport des Lumières. En d'autres termes, cette liberté possible, elle a non seulement servi les insurrections qui ne sont pas advenues en tant que révolution, toutes les révolutions du XIXe siècle, à l'exception de la révolution industrielle, ont échoué, puisqu'à chaque fois l'ordre s'est reconstitué, c'est-à-dire tous ceux qui voulaient, pendant la révolution, transformer les rapports sociaux, il n'empêche que l'esprit de liberté s'est toujours renouvelé. Dans le souterrain des choses, disait Benjamin. C'est-à-dire que cet esprit de liberté, à l'heure actuelle, s'étend et s'étend. La mondialisation n'est pas simplement une mondialisation des marchés. Il y a aussi un esprit de liberté qui, précisément, se répand. À l'heure actuelle, par exemple, il n'est pas étonnant de recevoir des articles, des textes d'Allemands, d'Italiens, voire Brésiliens et autres Mexicains, qui regardent avec une attention soutenue ce qui se passe en France. Comment se fait-il qu'un petit article, une petite chose, quelque chose relativement secondaire, puisse déclencher des manifestations aussi spectaculaires? Peut-être qu'au-delà des mots, des choses beaucoup plus importantes sont en train de se dérouler. Et que cet esprit de liberté est en train, précisément, de s'emparer non plus d'une petite minorité, mais d'une masse d'individus. Et c'est pourquoi ce retour sur les oubliés du passé nous permet de comprendre peut-être différemment toutes les révoltes qui se sont déroulées ces derniers temps, c'est-à-dire toutes les révoltes qui n'avaient pas véritablement de mots pour le dire, les révoltes que l'on dit des banlieues, où la violence extrême ne s'exprime pas en mots mais en gestes. Alors s'il n'y a pas de mots pour le dire, ça signifie donc que le discours des Lumières, le discours démocratique, le discours, eh bien, est réduit ou a été accaparé par une toute petite minorité. Et du même coup, ce langage qui n'existe pas, il faut bien qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que le langage politique, que les énoncés politiques ne sont pas suffisants pour intégrer, pour entendre précisément ce qui se passe. D'où la médiation de la rue. La médiation de la rue, c'est parce que le vide du pouvoir que représente la démocratie, eh bien, c'est pas véritablement un vide du pouvoir, il ne comprend que ceux qui parlent la même langue. Qui parlent la même langue, ça veut dire au sens concret du mot, qui donne le même sens au mot. Et comprenez bien qu'à l'heure actuelle, les mots n'ont plus de sens. Je disais à un collègue tout à l'heure, ce qui est dramatique, c'est que ce qui faisait la force de la raison des Lumières, la force de la raison critique, c'est précisément le concept. Le concept est par définition polysémique. Le concept, c'est un mot qui prend sens dans un discours qui aide à penser. Or, aujourd'hui, y compris le concept est devenu un slogan commercial. Le concept est devenu un slogan commercial. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la force des choses l'emporte sur l'intelligence des mots et sur le sens des mots. L'absence de mots pour dire la pensée critique n'est pas simplement l'apanage des banlieues. L'absence de mots, c'est ce qui est en général et ce qui est valorisé par les médias. C'est-à-dire que les mots font image, ils ne font même plus sens. Il n'y a plus que des images qui défilent. À partir de ce moment-là, on est en train de se demander, mais que veut dire précisément tel ou tel mot ? Au point que j'en suis arrivée à me dire que le fétichisme de la marchandise, mis à mal par Marx, mais surtout l'école de Francfort et Benjamin, nous sommes dans le règne du fétichisme de la marchandise. Ça veut dire que pour avoir de l'espoir, pour essayer de restituer l'esprit des Lumières, et l'esprit des Lumières, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, puisque la liberté est toujours en devenir. Je ne suis pas sûre d'être profondément libre, raison pour laquelle vous avez eu l'impression que je fais un caprice à propos de l'image, c'est que l'image, justement, transforme la raison critique. Et si l'image n'est pas accompagnée du dialogue et de la raison qui s'exprime dans une interlocution à égalité, eh bien cette image est travestie. On ne voit effectivement que la représentation et non pas le contenu. Et du même coup, échappe précisément ce qui faisait la force et ce qui continue à faire la force des Lumières, l'intelligence. L'intelligence critique et ce degré d'intelligence. Et c'est pourquoi j'ai en dernière instance accepté ce pari de l'espoir. Ce degré d'intelligence appartient maintenant, me semble-t-il, à la jeunesse. Et il y a très longtemps, que celle-ci ne s'était pas manifestée de manière aussi politique, aussi intelligente et aussi critique. Si vous examinez, pour le coup, les mots et les slogans sur les pancartes, nous sommes très loin des mots et slogans des manifestations, y compris de 86. Même celle de 95. Il y a des mots et des slogans d'une virtuosité et d'une fulgurance extraordinaire. J'espère que les témoignages, les témoins d'aujourd'hui recueilleront justement la subtilité de ces mots d'ordre. Bien sûr, il y a des grossièretés d'usage, la question n'est pas là. Mais il y a au cœur même du mouvement actuel quelque chose qui se passe, qui me fait dire que l'espoir est de mise et que l'utopie est possible. Pour la bonne et simple raison, c'est que les intellectuels dont vous avez entendu parler, qui existaient dans l'histoire ou dans le passé récent, ces intellectuels n'ont plus le même rôle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de porte-parole. Les intellectuels, en général, vous savez ce que ça signifie, l'intellectuel, c'est celui au sens sartrien du terme, c'est celui, ou plus exactement au sens où les Dreyfusards l'ont employé à cette époque-là, c'est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire du monde politique dans lequel il évolue, donc ce qu'il regarde fondamentalement, bien sûr. Eh bien, ces intellectuels, maintenant, sont éclatés dans une myriade, je dirais dans une constellation, précisément, d'esprit de liberté et d'esprit critique, et notamment dans la jeunesse. La jeunesse n'a plus besoin de porte-parole. Et au contraire, les porte-paroles ordinaires, classiques, qui sont dans la représentation politique, justement, n'exprime pas ce qu'il pense. Et peut-être les empêche-t-il, les empêche-t-elle de dire par des mots qui sont les leurs, avec le sens qui est le leur, ils ont bien compris justement que le concept avait l'utilité de la raison critique, eh bien, peut-être qu'ils devraient se taire pour les faire parler. Si on sait écouter cette fois-ci ceux qui parlent, et qui sont non seulement des acteurs de l'histoire, mais aussi des sujets qui disent exactement ce qu'ils font. Vous savez que pour devenir, ou pour faire en sorte que les acteurs deviennent sujets d'histoire, il est indispensable qu'il y ait un lien entre l'action et la parole. Il faut être en capacité de dire ce que l'on fait. C'est Hannah Arendt qui l'a très très bien exprimé, c'est-à-dire il faut être en capacité sans tutelle, sans dogme, sans doctrine, sans référence obligée, bien sûr avec toutes les références existantes, à condition de se réapproprier le discours critique. Eh bien, il me semble, peut-être est-ce mon utopie naturelle, mon optimisme naturel, mais il me semble que la jeunesse étudiante, la jeunesse lycéenne et la jeunesse qui travaille a compris précisément ce sens de la liberté critique qui permet d'espérer à un devenir sans porte-parole particulier et sans les intellectuels qui ordinairement se présentent dans les médias où on ne voit que l'image. Autre raison pour laquelle j'étais quelque peu réservée sur cette figuration de ma conférence, si conférence il y a, mais on tient compte essentiellement de ce qui est dit, ce qui est écrit, et précisément ce qui va faire trace pour l'histoire. Soyons attentifs à ce qui va faire trace, et il me semble qu'il y a incontestablement un espoir, à condition, bien entendu, d'imaginer non plus la démocratie représentative au sens délégation de pouvoir, mais une démocratie où chacun prend sa part de souveraineté, donc sa part de pouvoir, avec, il va de soi, sa part de responsabilité. Il n'y a pas de liberté possible sans responsabilité. On a une responsabilité par rapport à son voisin, on a une responsabilité par rapport à son interlocuteur, et on a une responsabilité dans l'expression qui est la nôtre. Chaque mot, bien entendu, a un certain poids. Il a un certain poids parce qu'il y a un interlocuteur également libre. Ça suppose donc qu'il y ait respect de l'altérité, et l'altérité est multiple. Ce n'est pas l'altérité de l'autre en tant que communauté, c'est l'altérité en tant que multiplicité d'individus différents. Il n'y a pas un individu ici qui ressemble à l'autre. Cette altérité-là est précisément le socle fondateur de la démocratie à venir. Démocratie, bien entendu, avec un système de représentation, mais un système de représentation qui toujours est contrôlé par ceux qui ont contribué à élire le représentant, c'est-à-dire tout simplement une demande de compte, et le représentant devra constamment rendre compte avec une rotation de la représentation, avec une rotation des pouvoirs. Mais il me semble que la jeunesse actuelle est en capacité de construire une démocratie multiple avec des individus différents et surtout pas des communautés identifiées pour que celles-ci puissent rester à leur place. Le retour du refoulé se fait par communauté ou par religion interposée parce que justement la liberté a été réservée, la liberté des Lumières a été réservée, pas simplement à une élite, à des privilégiés qui seuls avaient accès au savoir et au savoir critique. Et le savoir critique est la chose la plus précieuse, raison pour laquelle, personnellement, mon utopie, c'est l'instruction permanente. Faire en sorte que tout individu, à quelque âge qu'il arrive, il puisse accéder à l'université, accéder à l'école, accéder à tout ce qu'il est possible d'offrir pour que le savoir jamais ne s'arrête, parce que savoir et liberté sont étroitement liés. Une seule, à mon avis, solution pour pouvoir réduire les inégalités, c'est précisément par le savoir. Retour à Kant, il n'y a pas de liberté possible avec une tutelle, c'est-à-dire que la tutelle est contraire précisément à la liberté, et pour s'émanciper de la tutelle, il faut pouvoir accéder au maximum de savoir. Voilà, je crois avoir à peu près fait le tour de cet espoir, en oubliant un certain nombre de choses.